Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h48, la suite du débat des grandes voix, Michel Cotta, Bruno Jeudy, Franz-Olivier Gisbert. Et on va revenir donc ensemble sur la conférence de presse de Jean Castex, après le grand oral du chef de l'État, suivi tout de même par près de 29 millions de téléspectateurs, dans lequel il a donc exposé sa stratégie de confinement, de déconfinement en trois étapes, réouverture d'abord des commerces non essentiels, l'instauration d'un couvre-feu qui remplacera le confinement le 15 décembre, dernière étape enfin, fin janvier, l'ouverture possible des restaurants. Alors comment vous l'avez trouvé vous, Jean Castex? Parce qu'on a bien compris que cette fois les rôles étaient clairs, le président de la République décide, le Premier ministre fait l'explication de texte, et la logistique, Franz?
Bah, il a toujours le mauvais rôle. Il rentre dans les détails et c'est ça les détails qui sont emmerdants parce que ça permet à Macron d'être très brillant.
Et il s'en mêle les pinceaux parfois dans les détails.
Bah oui, bien sûr, parce que dès que vous rentrez dans les détails, en plus, excusez-moi, on est en absurdistan. C'est-à-dire que, par exemple, on ferme les coiffeurs, mais les toilettes pour chiens sont autorisées quand on vous vendait des croquettes. Voilà. Bon. Alors peut-être que les coiffeurs devraient vendre des croquettes, comme ça ils auraient pu rester ouverts.
Les stations de ski ouvertes, mais pas les remontées mécaniques.
Oui, enfin, tout ça est vraiment très étrange. On voit vraiment la bureaucratie française à plein. Le ministère de la Santé, les ARS, tout ça s'en mêle. La bureaucratie. Et ça, c'est vrai que quand on fera le bilan du coronavirus en France, il sera très mauvais. En nombre de morts, il est mauvais quand on regarde. J'entends dans les médias en permanence des trucs horribles sur le Brésil et les États-Unis. Eh ben, je vais vous dire, si on rapporte le nombre de morts à la population, eh ben, on arrive à des résultats à peu près équivalents au Brésil et aux États-Unis. Et ça, vous ne l'avez pas dans les médias. Donc, c'est un résultat épouvantable.
Éric Raoul.
Michel.
Mais ça n'a rien à voir. Là, tu ne peux pas me sortir d'Éric Raoul. C'est les résultats. Excuse-moi.
Parenthèse fermée. Je voudrais qu'on reste sur Jean Castex, si vous le voulez bien.
Je trouve que Emmanuel Macron est arrivé à faire ce qu'il voulait d'un Premier ministre, c'est-à-dire un directeur de cabinet. Mais c'est ce qu'il envisageait, c'est ce qu'il disait toujours, lorsqu'il était lui-même secrétaire général adjoint de l'Élysée. Bon, et ben voilà, là, il est arrivé.
Il est deux fois, quand même.
Au-delà, peut-être, de ses espérances, d'ailleurs.
Bruno Jeudy, est-ce que vous êtes d'accord avec Franz-Olivier Gisbert? On est en absurdie ou en absurdistan, je sais pas comment on dit ça, mais est-ce que le cap, cette fois, est assez clair?
Ouais, je trouve que c'est plus clair. Finalement, on s'aperçoit qu'à la fin du deuxième confinement et au début du deuxième déconfinement, ça progresse doucement. Ce sera sans doute très bon au troisième, j'espère. Je blague, j'espère qu'on n'en aura pas.
Il a raison. Mais, c'est ça, exactement. Ça
mais dans notre suradministration française, qui nous a quand même inventé cette magnifique attestation pour aller faire du jogging, je ne m'en remettrai jamais parce que là, je crois que là, on a touché le fond. J'ai été contrôlé un peu avec ma petite attestation dans mon short, donc là franchement, je crois qu'on a atteint le fond. Aujourd'hui, on a donc les stations de ski sans le ski, mais globalement, je trouve que le Premier ministre avait un meilleur ton. Lui, sur la forme, c'était meilleur.
Bruno Jeudy, il aurait pu s'en passer de cette phrase-là, parce qu'une station de ski, par définition, c'est un village, donc c'est ouvert toute l'année.
Pourquoi avoir besoin de
cette précision qui donne le sentiment d'absurdité? C'est vrai.
Vous ne fermez pas un village, on est embêté puisque Angela Merkel a demandé une coordination européenne. Donc on va se coordonner avec les Allemands, les Italiens, les Autrichiens ne veulent pas.
Faut savoir que la concurrence
pour les Alpes françaises, c'est ni l'Allemagne ni l'Italie, c'est les Suisses et l'Autriche. Donc là, il y aura un petit problème, il va falloir le gérer. Et dernier point, ce qui est un peu ennuyeux dans tout ça, c'est qu'une fois de plus, on est tous sous la même toile. C'est vrai qu'il y a un énorme problème avec les hôpitaux de Haute-Savoie et de Savoie, mais je ne crois pas qu'il y ait un problème pour les Pyrénées, pour le Jura ou les Vosges. Et les pauvres stations de ces massifs-là n'ouvriront pas.
Même remarque sur les lieux de culte, la jauge de 30 personnes, alors elle est maintenue, mais entre une grande cathédrale et une petite église de village, pourquoi ne pas avoir appliqué par exemple la même règle que dans les magasins, 8 mètres carrés par personne, au moins c'est clair.
Oui, mais de toute façon, le grand problème de ce gouvernement, et c'était particulièrement criant lors de la première vague, mais ça continue aussi, c'est qu'elle ne regarde pas ce qui se passe à l'étranger. On a l'impression qu'on est dans une bulle et qu'on fait tout avec nos bureaucrates, même pas les médecins.
En Allemagne, c'est dur aujourd'hui, les mesures.
Non, mais alors attendez. L'Allemagne. Je regarde les résultats. Moi, ce qui m'intéresse, je suis très pragmatique, le nombre de morts. Le nombre de morts en Allemagne, il y en a 4 fois moins qu'en France. Quatre fois moins qu'en France. Non, mais c'est humiliant. C'est humiliant pour notre pays.
Ce que je vois, c'est que là, ils prennent des mesures plus dures que nous.
Oui, plus dures, mais attends. Excuse-moi.
Bruno, je sais qu'elle est plus basse que la nôtre.
Ça va, ça vient. C'est-à-dire, les mesures changent souvent. Et je signale notamment, par exemple, que les librairies pouvaient continuer à fonctionner en Allemagne lors de la deuxième vague, contrairement au premier confinement. Elles ouvraient, elles pouvaient être ouvertes. Et moi, je pense que notre gros problème, c'est qu'on ne regarde pas du tout ce qui se passe, qu'on a une gestion très bureaucratique et centralisée. Et par exemple, je vous donne un petit exemple, et je termine là-dessus. On pourrait regarder, par exemple, du côté de l'Espagne, il se passe que dans la région de Madrid, ça se passe bien, alors que les restaurants sont ouverts, les hôtels sont ouverts, etc. Oui. Et que la présidente de la région, qui s'appelle Isabelle Duaz-Auzo, elle a une politique très simple, c'est test antigénique, oui, oui. Test antigénique, ah. Test antigénique. Voilà. Bon, bah, là, on a l'impression alors, qu'on est sur une autre planète.
Franchement, on ne peut pas dire que la France ne regarde pas ce qui se fait en Europe, puisqu'on
non,
voit que,
non,
voit
non,
que progressivement, et Berlin se reconfine, et Madrid, de temps en temps,
non,
se reconfine,
non, non,
et Barcelone. Non, je crois qu'on n'est pas. Enfin, on n'agit pas dans un sens diamétralement opposé aux autres. Ou alors, je regarde
sur
pas.
Sur la clarté du gouvernement, vous trouvez que les précisions qui ont été apportées aujourd'hui par Jean Castex sont claires, limpides et non discutables?
À peu près, il y aura toujours un trou dans la raquette.
Grosso modo, il a confirmé la feuille de route du président avant-hier soir. Moi, je croyais qu'ils allaient quand même lever l'ambiguïté pour les églises, parce que cette jauge à 30 est quand même un peu...
C'est quand même
assez stupide, parce que, bon, vous l'avez dit, entre les grandes églises et l'église du village, franchement...
C'est un peu comme si on disait, quel que soit le magasin,
il
faut être 5 ans.
Tous les clusters sont religieux.
Il est quand même pas si mal. Moi, je trouve, parce qu'il est quand même, il y a du bon sens toujours.
Alors, combien vous lui mettez
Mais là, aujourd'hui, j'ai trouvé que sur la
fin, il
était pas mal.
Toujours 15, moi, des notes comme ça, parce que je trouve qu'il le mérite. Il est,
en
il
tous
a
les cas,
bon sens.
Autant, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait des débuts à la rentrée qui étaient vraiment catastrophiques.
Bon, hein.
Et là, je trouve qu'il va mieux. Et surtout, il a un peu tensé ses ministres. Ça lui a fait du bien. Il a recadré Darmanin la semaine dernière. Il a mis Bruno Le Maire à 10 mètres. Blanquer, il a pris sa petite baffe. Je trouve qu'il faut se méfier d'un qui dort.
Non, vous n'empêcherez pas,
le maître
vous n'empêcherez pas qu'il n'ait pas l'air d'un Premier ministre politique, notamment quand il a commencé en disant je tiendrai la majorité, contrairement donc à Édouard Philippe qui était censé ne pas la tenir. Ça a complètement disparu du paysage.
Oui, combien vous lui donnez alors
Là, 11-12 quoi.
11-12,
ah,
oui.
Pas mal quand même.
Oui, c'est la moyenne.
Oui,
et
moi
vous,
aussi.
Michel?
Moi aussi.
Et vous, Michel? 11-12. Dernière question, les amis. La colère qui monte chez les restaurateurs et les cafetiers qui... 20 janvier, c'est la perspective. Et encore, est-ce que cette colère qui monte peut se transformer en grogne sociale ? Bruno Jeudy.
Alors moi, j'ai une position là-dessus. Je suis issu d'une famille de commerçants. Je suis très sensibilisé à ce sujet. Franchement, c'est simple. Quand on décide de sacrifier un secteur, c'est le cas avec les restaurateurs et les bars, et on peut ajouter les discothèques, je pense que la collectivité doit prendre entièrement à sa charge le coût que vont supporter cette catégorie. Franchement, là, on a ratiociné jusqu'à présent. Là, on passe à 20% du chiffre d'affaires. Bon, c'est n'importe quoi ce qui s'est raconté sur les loyers. Il faut savoir que 9 commerçants sur 10 en France payent des loyers à des gens qui sont eux-mêmes retraités commerçants et dont c'est le seul revenu pour pouvoir survivre. Donc, franchement, il y a une déconnexion complète de Bercy. Quand ils nous racontent qu'il y a des grandes foncières qui sont, effectivement, sur les Champs-Élysées, à Paris, dans les grandes villes. Mais ce n'est pas le cas de l'immensité.
Donc, le crédit d'impôt de 50%, c'est du pipeau.
Non, il faut. Et en plus, là, c'est très compliqué parce que là, les plateformes, c'est très difficile pour ces petits commerces, ces indépendants, de s'y retrouver.
Il nous reste 20 secondes. Qui veut le dernier mot?
Moi, j'ai envie de dire la même chose que Bruno, mais presque en pire. C'est que moi, ce que je vois, c'est une sorte d'horreur économique. Des gens qui pleurent, un secteur qui va à la mort, avec pas seulement les restaurateurs, les bars, les discothèques, il faut rajouter tous les petits métiers, les traiteurs, etc. C'est juste attendre. Et qu'est-ce qu'on leur donne? Il y a un sentiment d'inhumanité. Ce gouvernement est un peu hors sol, c'est-à-dire, vous voyez, il y aurait un peu plus d'élus. Je pense qu'ils verraient un peu plus l'espèce la dépression qui s'est abattue sur toute une partie de la population.
Pardonne, mais le gouvernement n'a pas invité, n'a pas inventé le Covid. Voilà.
Mais j'ai pas dit le contraire. C'est pour ça, je dis qu'il faut les aider eux. Il faut les aider eux.
Je suis entièrement d'accord.
Il faut les aider eux à avoir des mots.
Si on avait pu les éviter ça,
on n'a pas dit qu'il faut les aider. Merci les amis. Merci. 18h56, vous restez avec nous dans un instant. Le journal et puis juste après le club des idées. Mais au fait, qui remboursera la dette Covid avec tous ces milliards injectés dans l'économie? On en parlera.